Bienvenue sur le podcast de Moodstep, je suis Johanna Kellen, opératrice de turbine à bonheur et votre hôte pour ce podcast, où deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, nous recevons un invité pour parler des clés de la connaissance de soi et des moyens de les mettre en œuvre dans les équipes. Vous retrouverez ces entretiens et les liens cités pendant l'interview dans l'article posté sur moodstep.com. J'espère que vous apprécierez ce tout nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour Nicolas.
Bonjour Johanna.
Eh bien, je suis heureuse de te recevoir. Nous allons parler de la complexité et du management de la complexité avec toi. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es.
Eh bien écoute, je suis le directeur général de Smart Agence, qui est une agence digitale qu'on qualifie d'hybride, qui travaille à la fois sur les problématiques de transformation digitale en conseil et également en design sur les problématiques d'innovation, de design de services et de design de dispositifs digitaux. Mon profil, c'est un profil qui est un profil aussi hybride, à la fois dans le conseil, en stratégie digitale et en accompagnement du changement, et un profil de coach où je travaille notamment sur effectivement des problèmes ou des problématiques complexes, et j'accompagne mes clients, leurs équipes, les organisations à y faire face.
J'aimerais bien savoir d'où vient, parce qu'on voit ce thème de la complexité dans plein d'articles en ce moment. C'est un thème presque, on pourrait dire, qui vient de sortir. Comment ça a émergé et comment toi tu es venu à devenir consultant sur ces problématiques spécifiques?
Alors effectivement, tu as raison, il y a un côté très, on va dire, à la mode, et donc il faut se méfier du fait que le mot puisse être un petit peu galvaudé. En fait, c'est un concept qui est pas nouveau, hein, qui est, je pense, date même de l'Antiquité, mais j'ai pas de référence de ce point de vue-là. Mais par contre, effectivement, moi je me suis beaucoup intéressé au sujet qui a émergé pour moi dans les années 60 avec les travaux de l'école de Palo Alto, les travaux autour de ce qu'on appelle l'approche systémique, donc la capacité à voir effectivement à 360 degrés les situations, les problèmes, les contextes, et vraiment, et j'irai avoir cette vision très très globale des situations. Et en fait, la complexité, elle vient notamment des principes théoriques, des prémices de la systémique, parmi lesquels deux prémices. Le premier, c'est le constructivisme, hein, qui est un courant de pensée qui date à peu près de la même époque et qui considère qu'il n'y a pas de réalité objective, donc il y a autant de réalité que d'individus, et que chacun se construit sa réalité avec ses filtres culturels, sociaux, économiques. Et d'autre part, la théorie générale des systèmes, qui voit finalement l'ensemble des interactions comme un gigantesque système qui par nature est extrêmement complexe. Donc la question, c'est comment tu appréhendes cette complexité qui finalement aujourd'hui devient, pour répondre à ta question, effectivement un sujet à la mode, parce qu'on est dans des systèmes qui sont de plus en plus instables, qui s'accélèrent énormément, hein. Le digital a évidemment amené un phénomène d'accélération extrêmement important. Et donc, c'est ça qui amène de la complexité. C'est finalement le fait qu'il y ait de plus en plus de choses qui bougent et auxquelles il faut, je dirais, s'adapter en permanence.
Donc, le monde se complexifie quand même. C'est-à-dire qu'elle a toujours existé, cette complexité, on s'y intéresse de plus en plus maintenant, mais aujourd'hui, on a quand même des données qui sont plus complexes.
Je pense que le monde est toujours aussi complexe. Par contre, il y a ce qui, on va dire, effectivement, nous donne l'impression qu'il l'est davantage. C'est que je pense qu'il y a un premier sujet qui est que les choses sont plus visibles. Et donc, on accède à plus d'informations, on a accès à plus de contenu. Il y a des mouvements qui font que des mouvements de citoyenneté ou des mouvements autour de la presse qui font qu'il y a des choses dont on est au courant, alors qu'avant on ne l'aurait pas été. Donc il y a l'effet de médiatisation et d'amplification. Donc il y a un double mouvement. Il y a un mouvement d'amplification qui fait qu'on est au courant de plus de choses, et il y a un mouvement d'accélération qui est entre autres porté par le digital, qui fait que tout va plus vite, quoi. Donc il y a un double mouvement, on va dire, à la fois sur l'item vitesse et sur l'item quantitatif.
Donc on voit avec cette complexité émerger des experts de la complexité dont tu fais partie.
J'espère, en tout cas j'essaye, très modestement.
Du coup, je me demandais comment on fait face à cette complexité. Donc, quand on est manager, est-ce qu'on fait appel à un expert ou est-ce qu'on peut la gérer soi-même? Donc, c'est une question à plusieurs tiroirs. Déjà, on va commencer par l'expert de la complexité et donc ce que tu fais. Quand est-ce qu'on fait un appel à un expert de la complexité?
Je pense que tu peux faire appel à un intervenant extérieur qui va t'apporter un regard à partir du moment où toi-même tu finis par être un peu perdu. C'est-à-dire que évidemment que dans notre quotidien, on traite tous, je dirais, de couches de complexité plus ou moins nombreuses, plus ou moins profondes. Mais je pense que le fait d'avoir un regard extérieur à un moment donné va s'imposer à toi à partir du moment où tu prends suffisamment de recul sur ta propre pratique pour te rendre compte que bah, tu as du mal à t'en dépêtrer un petit peu, si j'ose dire. Parce que l'enjeu de la complexité, c'est pas de la résoudre forcément. Ça peut être parfois simplement de la simplifier ou de te pencher sur l'élément du système qui est le plus facile à adresser, c'est-à-dire soit à résoudre, soit qui va être l'endroit du système qui va être le plus à même de bouger ou le plus proche d'un changement. Et donc d'identifier tout ça, parfois quand tu es toi-même finalement dans le système, et ben ça peut être assez compliqué. Donc le fait d'avoir un regard extérieur, à ce moment-là, ça peut être aidant. Sachant que la complexité, pour moi, elle intervient très souvent sur la sphère relationnelle et sur l'interrelationnel. La complexité, elle émerge. On peut parfois être face à des situations compliquées avec beaucoup de données à traiter, par exemple, des choses comme ça, mais c'est compliqué. Mais la complexité, elle vient aussi souvent et principalement, ben finalement, des relations humaines et des différentes interactions qu'on va avoir avec notre environnement. Et du coup, le sujet, c'est de revenir à l'humain, c'est de revenir à effectivement qu'est-ce qui se passe ici et maintenant chez moi, chez l'autre et dans l'interaction que j'ai avec l'autre ou les autres.
Mais du coup, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et ce que tu fais? Là, je vois en plus, je vois deux choses. Je vois le consultant qui vient pour aider sur des problématiques de management. Et puis là, ce qui doit beaucoup t'aider dans ton travail, cette posture de coach, puisque tu parles de l'interpersonnel ou la connaissance de soi. Donc, où est-ce que se situe cet expert en complexité voilà, dans ce panorama qui existe déjà, quand est-ce que je me dis, là, c'est un expert de la complexité qu'il faut que j'appelle?
Alors c'est une bonne question. Je pense que c'est aussi une question de sensibilité qu'on peut avoir par rapport au sujet, par rapport au diagnostic qu'on fait du sujet. Et en tout cas, la posture que je vais avoir, elle va être hybride. C'est-à-dire que quand on parle de manager-coach, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une posture où effectivement on va attendre des conseils, des solutions, ou est-ce qu'on va être dans une posture où on va plutôt chercher à déjà définir le problème ou à appréhender un problème et éventuellement être guidé pour trouver soi-même la solution au problème. Et je ne sais pas si finalement la solution est aussi binaire que ça. C'est-à-dire que c'est sans doute un mix des deux et qu'en fonction du stade où on se situe et de l'évolution et du cheminement qu'on fait par rapport au problème, je vais être plus dans le fait de guider, d'accompagner et de diagnostiquer. Versus le fait d'être dans une posture de consultant plus classique où on arrive avec des solutions, des pistes de solutions et on aide à la décision par rapport à celle-là. Voilà, ma réponse n'est pas simple. D'abord parce que on ne m'a jamais posé la question comme ça, donc elle est en soi complexe. Mais je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la manière dont les personnes qui se retrouvent face à cette complexité ont envie de travailler avec qui. Enfin, il y a un côté quand même assez intuitif personnel, clairement. Et puis il y a effectivement un côté technique. Et effectivement, à ce moment-là, moi, ce que je vais revendiquer par rapport à ça, c'est d'être la capacité d'être hybridité de posture, l'idée, en tout cas pour l'intervenant, étant d'être très clair sur à quel moment je suis dans une posture et dans quel moment je suis dans l'autre. Voilà, en fonction
D'accord.
de la manière dont l'accompagnement se déroule.
Et puis il y a la deuxième partie qui est donc je suis manager face à la complexité et je ne fais pas forcément appel à un consultant extérieur. Il y a des outils spécifiques à cette discipline? Comment on se forme à la complexité?
Il y a plein de manières de se former à la complexité. Il y a d'une part, il y a plein d'approches en fait. Donc après, ça peut être effectivement des livres, des inspirations ou des univers qui s'y intéressent plus particulièrement. Je parlais tout à l'heure de l'approche systémique qui fait partie de mes cadres de référence. Voilà, qui pour moi sont une approche qui est extrêmement bien calibrée pour attaquer cette complexité et offrir cette vision. Vraiment à 360 des problèmes ou des préoccupations, des projets. Les designers aussi travaillent énormément sur les sujets de complexité, notamment autour du design thinking quand on est sur des problématiques d'innovation ou autour du design des connaissances quand on est sur la capacité à, je dirais, illustrer, schématiser une complexité ou des problèmes. Donc je dirais que y a plein de manières de faire, mais les deux que j'affectionne plus particulièrement, c'est à la fois un mode et une approche de pensée systémique et des modes de représentation cartographique qui sont plutôt le territoire des designers.
Alors là, j'ai deux choses qui me viennent. Déjà, est-ce que tu pourrais nous donner en quelques mots, c'est quoi l'approche systémique? On va dans les bases, mais tout le monde n'est pas forcément familier avec ces termes.
L'approche systémique, c'est en fait une manière de voir le monde comme un système. Donc, c'est à la fois une vision globale, et donc c'est une approche de la globalité, en disant que parfois le tout est supérieur à la somme des parties, ce qu'on appelle la nosommativité. C'est-à-dire que dans une approche systémique, on va considérer que c'est un peu une approche un peu holistique, en fait, hein. On va considérer l'ensemble des éléments du système, mais on va aussi considérer ce qui émerge progressivement et qualitativement de l'interaction entre les éléments de ce système. C'est ce qu'on appelle la nosommativité des parties, ou plus dans le langage courant, on va dire que le tout est supérieur à la somme des parties, c'est-à-dire que...
Et ce qu'on retrouve dans la nature avec le totum de la plante, c'est étonnant ce que tu
Voilà,
dis.
ben, je dirais que pour le coup, de toute façon, l'approche systémique ne s'intéresse pas qu'aux relations humaines, même si j'ai fait le focus là-dessus, mais c'est une vision de voir le monde dans sa grande globalité, donc y compris par rapport à l'écosystème qui nous entoure. Donc il y a à la fois cette notion, je dirais, de globalité, de nosommativité et de qualité émergente. Et puis, il y a une deuxième notion qui est très forte dans la systémique, c'est la notion d'interaction. Et donc, de finalement, d'étudier pas tant chacune des composantes du système que la manière dont elle interagit centrale. C'est-à-dire, dans l'approche systémique, on va ne pas être dans le jugement de l'individu, ou en tout cas avoir une approche extrêmement bienveillante par rapport à chacun, considérant que comme il n'y a pas de réalité objective, et ben finalement la réalité de l'une ou la vérité de l'un est aussi valable que la vérité de l'autre. Mais par contre, on va s'intéresser, donc on ne va pas être dans le jugement d'opinion ou le jugement de la personne, on va s'intéresser aux interactions entre les gens ou entre les composantes du système, qui sont des interactions par nature assez complexes, et essayer de décoder la mécanique de ces interactions pour identifier finalement ce qui fonctionne ou potentiellement ce qui dysfonctionne dans ces interactions. Et finalement, les problèmes qu'on a en management, par exemple, si on prend le sujet du management, c'est rarement lié aux qualités intrinsèques d'une personne, encore faut-il qu'on soit, je dirais, légitime pour la juger, que à une qualité ou une absence de qualité dans l'interaction qu'on va avoir avec cette personne-là. L'exemple métaphorique que je prends souvent par rapport à cette notion d'interaction, c'est l'exemple des mauvaises herbes. D'un point de vue systémique, on va considérer qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a que des bonnes herbes en fait. Sauf que à un moment donné, il y a une herbe qui pousse pas au bon endroit. Donc ce qu'on va qualifier ou considérer comme étant de la mauvaise herbe, c'est simplement une herbe qui est aussi bonne et aussi qualitative qu'une autre, mais qui ne pousse pas au bon endroit, ou en tout cas au l'endroit où on souhaiterait qu'elle pousse.
C'est marrant parce que je viens de lancer sur mon blog mon potager que je fais avec les gens qui suivent Moodstep et on m'a fait cette remarque sur les mauvaises herbes, que c'est pas une mauvaise herbe, c'est juste qu'elle n'est pas au bon
Ah,
endroit
voilà.
ou à ce moment-là, elle n'est pas là où on voudrait qu'elle
Alors, on t'a
soit.
fait, d'un point de vue technique, un recadrage pour effectivement faire en sorte que ta vision du monde sur cette herbe, que tu as qualifiée de mauvaise, bah, te faire prendre conscience que potentiellement elle ne l'était pas. En tout cas, elle pourrait ne pas l'être en fonction du contexte. Mais en même temps, Et là, c'est un point de vue aussi très systémique. Si pour toi, dans ta réalité et par rapport à tes enjeux, tu considères que c'est une herbe effectivement qui n'est pas adaptée, bah c'est ton droit, c'est ta responsabilité. Et cette approche-là, en tout cas, c'est une approche qui parfois peut être perçue, notamment dans des approches de management ou des approches d'accompagnement d'équipe, comme une approche de laisser-faire, alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un fort respect de l'autre et de ce qui se passe chez les autres. Ben, on ne veut pas pour eux. On ne cherche pas à faire quelque chose ou à les obliger à faire quelque chose. Mais par contre, donc il y a un côté très respectueux. Mais c'est pas parce qu'on est dans le respect qu'on est dans l'inaction et que on ne va pas accompagner effectivement les gens, les équipes, nos collaborateurs et qu'on va pas les faire cheminer pour avancer et pour progresser. Mais voilà, il y a vraiment cette dimension de je trouve de respect qui est très importante dans la vision systémique des choses, en fait. Voilà.
Et du coup, dans la gestion de la complexité, bon, tu as déjà donné des éléments de réponse, mais on se dit ok, on vit dans un monde complexe. Est-ce que sa discipline nous sert à comprendre la complexité ou quid de la simplicité? C'est-à-dire, est-ce que ça nous fait aller vers plus de simplicité ou c'est juste un décodeur de la complexité?
Alors, c'est les deux. Ça dépend jusqu'où tu vas, en fait, dans ton cheminement. C'est-à-dire que, évidemment, le premier usage, ça va être d'apprendre à décoder les choses, à décoder des situations, et donc à décoder une complexité. Arriver à hiérarchiser les éléments du système les uns par rapport aux autres, à percevoir ce qui est une conséquence d'une cause. Parce que souvent, nos clients nous amènent des problèmes, et c'est une espèce de gros sac à patates, comme je dis, et le premier job, c'est déjà de faire le tri entre les patates. Et parfois, il y a des hiérarchies entre ces patates, et parfois, il y a des choses qui sont simplement la conséquence, en fait, d'autres choses. Donc, c'est d'apprendre aussi à faire ce tri-là. Ça apprend aussi à distinguer quel est le vrai problème, parce que souvent, ce qu'on nous présente comme un problème, c'est la solution. En disant, finalement, voilà, j'ai pour objectif de faire ça, donc je veux faire telle solution, aidez-moi. Et du coup, quand on raisonne solution, ce qui est une pratique assez courante, on perd de vue, mais finalement, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le problème? Et du coup, parfois, on fait l'économie de reposer, on va dire, l'étendue des solutions possibles. Et on est bloqué. En fait, ce qui est un problème, c'est la solution. C'est parce qu'on raisonne solution et qu'on est arc-bouté sur une solution et qu'on ne repose pas correctement le problème qu'on a un problème. Ce qui est assez paradoxal. Voilà. Mais l'approche systémique est paradoxale par nature. Et puis, pour répondre à ta deuxième question, en fait, c'est aussi une approche qui va te permettre de quand même, à un moment donné, de traiter cette complexité, surtout, et donc de faire émerger un problème et d'arriver effectivement à soit le dissoudre, si on atteint effectivement un objectif ou une solution attendue, soit le réduire. Parce que des fois, il y a des problèmes, comme surtout les problèmes qui ne dépendent pas de nous, eh ben, on doit bien faire avec. Et donc la question, c'est effectivement comment j'arrive à essayer de réduire ce problème, souvent en essayant de négocier l'objectif à la baisse pour faire en sorte d'atteindre l'objectif et donc de résoudre mon problème. Donc c'est les deux choses. C'est à la fois une capacité à cartographier cette complexité, à la comprendre, à l'analyser et surtout à correctement l'appréhender. Et puis, le cas échéant, mais je dirais que c'est très lié à la demande et donc ça, parfois on peut s'arrêter là, mais parfois on peut aller jusqu'à effectivement globalement traiter le sujet. Et essayer de la résoudre.
Maintenant, j'aimerais faire avec toi ce petit questionnaire qui est commun à toutes les interviews du podcast. Es-tu prêt?
Je suis prêt.
Attention. J'aimerais savoir si dans ta carrière ou ta vie personnelle, tu as fait ce qu'on pourrait considérer comme une erreur ou tu as eu un échec et qui t'a appris quelque chose d'important.
Alors, j'ai fait plein d'erreurs. Et j'espère que j'en ferai encore plein parce que c'est ça qui permet de progresser. Et c'est souvent dans les situations de crise, en fait, que on progresse le plus, en fait. Donc ça fait un peu mal sur le moment, mais en fait, c'est quand même ce qui fait avancer. Parmi les enseignements que j'ai retirés, il y a peut-être une situation où finalement, donc dans une vie professionnelle passée, hein, précédente, j'étais dans un contexte de réorganisation et j'aspirais potentiellement à un poste et en fait ce poste je l'ai pas eu. Et évidemment, c'est toujours un petit peu blessant et toujours un petit peu questionnant. Et en fait, la réponse de mon manager à l'époque était très juste. Et en fait, il avait raison, puisque moi-même, je ne me sentais pas légitime pour ce poste-là, pas prêt. Et il me disait que finalement, c'était super important pour quelle que soit ta nomination, quel que soit le poste que tu occupes, que tu sois perçu comme légitime. Et la légitimité, elle ne se décrète pas. La légitimité, c'est les autres qui te la donnent. Voilà. Et c'est une leçon que j'ai retenue, parce que je pense que c'est une leçon de management extrêmement importante sur le fait que finalement, quelles que soient tes ambitions, parmi les premières choses sur lesquelles travailler, c'est évidemment de bosser pour mériter, je dirais, être à la hauteur et te donner les moyens de ton ambition. Et ça doit se manifester, et ça se manifeste forcément à un moment donné, d'un point de vue symptomatique, par la légitimité que les autres vont te donner. Et il ne faut pas vouloir aller trop vite. Donc cette légitimité, bah, elle s'acquiert, elle se gagne, et parfois ça prend du temps. Et donc voilà, il faut savoir être patient, mais en tout cas, il faut toujours s'interroger quand on prend un poste ou quand on aspire à une fonction, de s'assurer qu'on a bien la légitimité de ses pairs et de son environnement pour l'apprendre.
C'est une leçon d'humilité, en quelque
Oui,
sorte.
aussi.
Ensuite, je voudrais savoir s'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement fait avancer, soit personnellement ou professionnellement.
Alors, il y en a beaucoup aussi parce que pour le coup, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on soit en apprentissage permanent. Donc, je passe ma vie à apprendre. Et comme je suis un peu feignant, j'apprends plus au travers de formations et au travers d'échanges qu'au travers de livres. Mais même si les deux sont importants. Bon, je pense qu'au travers de l'interview, on aura compris que l'approche systémique est un élément qui, pour moi, m'a beaucoup accompagné et structuré dans ma vision du monde, même si je n'en fais pas ni un dogme, ni l'alpha et l'oméga, loin de là. Ce qui m'a beaucoup aidé quand j'étais manager, avant d'être entrepreneur, c'est des accompagnements, effectivement, de type coaching, notamment collectif. Le fait d'être effectivement accompagné avec des pairs pour progresser dans sa pratique managériale quand on démarre en tant que jeune manager, c'est quelque chose de super important, de prendre conscience que l'autre est différent, de prendre conscience qu'il y a plusieurs manières de faire les choses et qu'il faut les adapter en fonction justement de l'interaction et des gens que tu accompagnes. Ça, c'était quelque chose de très riche. Donc, pour le coup, ce qui m'a souvent fait avancer, c'est le fait d'être accompagné, d'être mentoré parfois. Et je pense qu'en tant que manager, c'est quelque chose qu'on doit redonner. Hein, je prends souvent la métaphore de l'ascenseur. Il faut croiser sur son parcours professionnel des gens qui te font monter des étages ou te font monter des escaliers. Et la contrepartie, c'est que il faut faire de même avec d'autres gens qu'on va croiser sur son parcours et qu'on va pouvoir faire avancer et faire monter les marches ou les étages.
Que tu fais avec Smart Agence, il y a 20 personnes dans ton agence dont tu es directeur général et fondateur. Et justement, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager? Parce que quelque part, tu es conseiller des managers, mais tu es manager toi-même.
Oui, et alors c'est un apprentissage quotidien. Et donc,
Et attention, ils peuvent
oui,
t'écouter.
complètement. Ben, certains écoutent là. C'est un apprentissage, puisqu'on a des bureaux partagés, donc certains écoutent. C'est un apprentissage quotidien. En réalité, je ne sais pas s'il y a une qualité. J'aurais plutôt envie de dire que un bon manager, c'est quelqu'un qui va savoir travailler sur son savoir-être et progresser en termes de savoir-être. Parce que des savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, je ne dis pas que ça ne s'apprend pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué à faire bouger. Et donc, il faut des qualités d'ouverture et des qualités, effectivement, d'humilité pour accepter de bouger aussi sur son savoir-être et de travailler son savoir-être. Au-delà de ses propres prismes, de sa propre éducation, on va dire de tout ce qui a contribué à former notre personnalité. Et finalement, dans cette dimension de savoir-être, il y a ce que j'appelle moi les curseurs de communication qui se travaillent. C'est un peu comme la gymnastique. Le premier curseur, c'est l'empathie. L'empathie, c'est une qualité qui se développe, qui se travaille, qui se nourrit et qui permet effectivement d'être, de savoir chausser parfois les lunettes de l'autre. Et puis, le deuxième curseur de communication sur lequel c'est important de travailler en termes de savoir-être, c'est la flexibilité comportementale. C'est-à-dire non pas se changer soi, mais arriver à changer son comportement, c'est-à-dire à avoir un comportement qui soit flexible pour justement s'adapter à l'autre et s'adapter aux situations qu'on rencontre. Voilà. Donc flexibilité et empathie, c'est pour moi deux qualités, parmi les nombreuses qualités qu'on doit avoir, mais deux qualités qu'il faut avoir. Et pour le coup, même si on ne les a pas a priori ou qu'on n'est pas forcément très doué, ça se travaille, c'est comme la gymnastique.
Est-ce qu'il y a un livre qui a eu un impact important pour toi ?
Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui lit avec beaucoup de facilité, à mon grand dam. Et donc, il y a plein de livres. Voilà, il y a vraiment plein de livres. Il y en a un peut-être sur le sujet du management que je conseillerais parce que déjà il est pas cher, il est très pratico-pratique et du coup je trouve sympa. Ça s'appelle Psychologie du manager et il a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Patrick Amar. A-M-A-R, Patrick Amar, ça s'appelle Psychologie du manager, et c'est 50 petites expériences de psychologie dans le contexte du travail et dans le contexte du management qu'on a tous rencontrées, qui sont des situations qu'on a plus ou moins tous rencontrées, et Patrick est quelqu'un qui est coach et psychologue, et qui a réuni dans ce bouquin, finalement, plein d'expériences très concrètes qui font aussi bien appel à la psychologie positive que au leadership, que à la problématique de l'interculturel, que à l'intelligence émotionnelle. Enfin, il a vraiment un spectre de balayage très éclectique, mais qu'il a réussi à synthétiser au travers d'expériences très concrètes. Voilà. Et j'ai offert ce bouquin-là à chacun de mes managers à l'agence parce que voilà, ça parle à chacun, même si on connaît pas trop ces sujets-là ou même si on débute. Et même si on est manager depuis longtemps, ça fait rigoler parce qu'on retrouve plein de...
On se dit, ah, je suis passé
voilà,
par là.
Voilà, je suis passé par là. Ou tiens, celui-là, je ne l'ai pas encore connu. Donc peut-être que... Voilà.
Et je rappelle que je mettrai les références du livre et de la citation que tu vas nous donner maintenant dans le descriptif de ce podcast sur moodstep.com. Voilà, et ça, c'est la dernière question. Est-ce qu'il y a une citation qui pourrait... définir ton action ou montrer un peu en quoi tu crois.
Réponse qui n'est pas une citation parce que j'ai jamais voulu m'enfermer autour d'une citation particulière ou d'un auteur en particulier, même si je peux me reconnaître dans plein d'entre elles. Mais mon côté œcuménique et adogmatique fait que je n'en citerai pas.
Bravo, félicitations, un rebelle. Merci beaucoup Nicolas. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comment est-ce qu'on peut te contacter ?
Alors, vous pouvez me contacter soit par l'intermédiaire du site Smart Agence, via mon profil LinkedIn aussi très facilement, et puis par mail évidemment à l'adresse nicolas@smartagence.com, tout simplement.
Je te remercie. Pour moi, ça a été très éclairant. Ça m'a conforté dans plein de choses que je mets en action sans le savoir. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous.
Écoute, merci à toi, Johanna. C'était un véritable plaisir aussi pour moi et une très belle expérience de parler de ces sujets de cette manière-là, ce qui est finalement assez peu courant.
Vous retrouverez toutes les informations sur ce podcast sur moodstep.com, moodstep.com. Vous pouvez également recevoir tous les épisodes directement dans votre boîte mail en vous abonnant à la lettre d'information. Et si vous souhaitez que je traite un sujet en particulier, envoyez-moi un message, toujours sur le site. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.